Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de l'équipe de France de football, les Bleus. Deuxième partie, 1982-2000. En s'appuyant sur la génération exceptionnelle des Platini, Rocheteau, Bossis, Giresse ou encore Tigana, les Bleus signent ensuite quatre épopées spectaculaires entre 1982 et 1986, avec une quatrième place à la Coupe du Monde 1982, une victoire à l'Euro 1984 en France, la Coupe intercontinentale des Nations en 1985, puis une troisième place à la Coupe du Monde 1986 au Mexique. En 1982, la compétition ne peut pas plus mal commencer, avec une cuisante défaite face à l'Angleterre, 3 buts à 1, dont un but de Brian Robson dès 27 secondes après l'engagement. La France redresse la tête grâce à une victoire 4 buts à 1 contre le Koweït, puis arrache sa qualification pour le deuxième tour en faisant match nul contre la Tchécoslovaquie, 1 à 1. Au deuxième tour, les Français se défoncent en grande difficulté de l'Autriche, 1 à 0, but de Cengini sur coup franc. Puis de l'Irlande du Nord, 4 buts à 1, grâce à deux doublés de Giresse et Rocheteau, et accède ainsi aux demi-finales. C'est à l'occasion du match contre l'Irlande du Nord que Michel Hidalgo associe pour la première fois quatre joueurs à vocation offensive, Tigana, Cengini, Giresse et Platini. Au milieu de terrain, le carré magique est né. Disputé à Séville, la demi-finale des Français contre la RFA est rentrée dans la légende du football. Qualité du jeu pratiqué, intensité, émotion, tout a contribué à rendre ce match légendaire. Les deux équipes se quittent sur le score 1 à 1 à l'issue du temps réglementaire après un dernier tir de Manuel Amoros sur la barre transversale à la 88e minute. Les Français, survoltés par l'agression commise par le gardien allemand Harald Schumacher sur Patrick Battiston, inscrivent deux buts coup sur coup à l'entame de la prolongation par l'intermédiaire de Marius Trésor et d'Alain Giresse. Continuant à jouer l'offensive et un football spectaculaire, les Français se font rejoindre au score en l'espace de quelques minutes. 3 à 3. Ils ne peuvent éviter de jouer la qualification pour la finale sur la première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde dont ils sortent perdants. En l'absence des principaux titulaires, la France perd également le match pour la troisième place contre la Pologne, 3 buts à 2. Deux ans plus tard, la France aborde avec le statut de favorite le championnat d'Europe de football 1984 qu'elle dispute à domicile. Avec une génération arrivée au sommet de son art et le renfort de l'accrocheur Luis Fernandez au sein du carré magique, la France va répondre aux attentes. Après une entame délicate contre le Danemark, bien qu'elle gagne un but à zéro, la France écrase ensuite la Belgique 5 à 0, puis vient à bout de la Yougoslavie 3 buts à 2. En demi-finale, la France affronte le Portugal à Marseille. Menée d'un but à 5 minutes de la fin de la prolongation, les Bleus égalisent avant de prendre l'avantage dans les derniers instants du match sur une frappe de Platini consécutive à un rush héroïque de Jean Tigana. Victoire 3 à 2. En finale, contre l'Espagne, un coup franc de Platini qui surprend le malheureux gardien espagnol Luis Arconada débloque un match jusque-là verrouillé. Grâce à l'estocade portée en fin de match, par Bruno Bellone, score final 2 à 0, l'équipe de France de football remporte le premier titre majeur de son histoire. Le 10 août 1984, au Rose Bowl de Pasadena, la sélection olympique, dirigée par Henri Michel, entraîneur, et emmenée par des joueurs comme Dominique Bigotta, Jean-Claude Lemoux, François Brisson ou Daniel Zouereb, remporte la finale des Jeux de Los Angeles en battant le Brésil sur le score de 2 à 0. La seconde médaille olympique de la France en football est donc en or après la médaille d'argent obtenue par l'équipe de France en 1900. Pour la Coupe du Monde 1986, la France fait à nouveau figure de favorite. Mais amoindrie par les blessures récurrentes de leurs deux meneurs de jeu, Platini et Giresse, les Bleus, emmenés par Henri Michel, peinent à retrouver l'état de grâce de 1984. La France sort sans grande difficulté, mais sans panache, d'un premier tour largement à sa portée contre le Canada, 1-0, l'URSS, 1-1, et la Hongrie, 3-0, avant d'affronter l'Italie en huitième de finale. La France l'emporte 2-0 au terme d'un match remarquablement maîtrisé grâce à des buts de Platini et Stopira sur deux passes décisives de Rocheteau. La France sort victorieuse de ce duel au sommet entre les champions du monde 1982 et les champions d'Europe en titre. En quart de finale, la France retrouve sur sa route le Brésil. Pour beaucoup, c'est un match entre les deux équipes qui pratiquent le plus beau football. À cette époque, les Français sont d'ailleurs surnommés les Brésiliens de l'Europe, en hommage à leur jeu spectaculaire et systématiquement tourné vers l'offensive. Le match tient toutes ses promesses, à tel point que Pelé le qualifie de match du siècle. Dominateurs, les Brésiliens ouvrent rapidement la marque par Careca, avant que Platini ne ramène les deux équipes à égalité en reprenant un centre de Dominique Rocheteau. La prolongation spectaculaire au cours de laquelle les deux équipes se procurent chacune de franches occasions ne change pas le score, 1-1, et les Bleus se qualifient 4-3 à l'issue de l'épreuve des tirs au but et de la tentative réussie de Luis Fernandez. En demi-finale, la France retrouve la RFA pour ce qui est considéré comme la revanche de Séville, 4 ans plus tôt. Mais de revanche, il n'y en aura pas. Comme si elle avait tout donné contre le Brésil, la France, en panne d'imagination, privée de Rocheteau, blessé, qui avait distillé 4 passes décisives dans les 3 matchs précédents, et sans doute diminué physiquement par sa victoire au tir au but sur les Brésiliens, bute sur la rigueur et le réalisme des Allemands, qui s'imposent sans grande difficulté, 2-0, ceux-ci ayant joué contre le Maroc et le Mexique, qui sont des adversaires bien moins réputés que l'Italie et le Brésil. Les Français se consolent avec la 3e place, acquise par les remplaçants, les coiffeurs, aux dépens de la Belgique dans la petite finale. 4-2 après prolongation, leur meilleur résultat depuis la Coupe du Monde 1958. L'épopée de la Coupe du Monde mexicaine marque la fin de ce que les observateurs considèrent comme une génération d'exception. La transition est trop brusque et la nouvelle génération échoue successivement à se qualifier pour l'Euro 1988 et le mondial italien de 1990. Le match nul 1-1 contre la sélection chypriote du 22 octobre 1988 propulse Claude Beiss, l'influent président des Girondins de Bordeaux, au poste de surintendant de l'équipe de France, un poste spécialement créé pour lui. Claude Beiss désigne alors Michel Platini à la tête de la sélection en novembre 1988. Si l'arrivée d'un nouveau sélectionneur emblématique comme Michel Platini n'empêche pas l'absence au mondial italien, elle suscite pourtant de nombreux espoirs. Lors de l'Euro 1992, qui se déroule en Suède, la France n'arrive pas à confirmer son parcours des éliminatoires et est éliminée dès le premier tour, avec 2 matchs nuls contre la Suède, 1-1, et l'Angleterre, 0-0, et une défaite, 2-1, contre le Danemark, futur vainqueur du tournoi. Peu de temps après la compétition, Platini donnera sa démission le 2 juillet 1992, après avoir dirigé les Bleus 29 fois. Le nouvel entraîneur de l'équipe de France est Gérard Houllier. Enchaînant les succès lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994, les Bleus semblent bien partis pour obtenir leur qualification. Mais ils s'effondrent dans la dernière ligne droite alors qu'un point lors des 2 derniers matchs leur aurait suffi. D'abord, défaite sur le score 3-2 contre Israël, que les tricolores avaient battu pourtant 4-0 à l'aller, puis défaite de 1-1 contre la Bulgarie, avec à chaque fois un but encaissé à la dernière minute. Et cela à domicile. Aimé Jacquet est le nouveau sélectionneur national des Bleus. Il a pour but de tout reconstruire alors que le football français est encore sonné par le traumatisme bulgare. Qualifié pour l'Euro 1996, l'équipe de France y atteint les demi-finales en confirmant la solidité à toute épreuve de son bloc défensif composé de 4 défenseurs et de 3 milieux récupérateurs, mais déçoit quelque peu par le manque d'inspiration de son secteur offensif et de ses 2 créateurs, Zinedine Zidane et Youri Djorkaeff. Victorieux de justesse contre les prestigieux Pays-Bas, 0-0 après prolongation, 5-4 en quart de finale, les Bleus tombent en demi-finale contre la République tchèque, 0-0 après prolongation, 5-6 en faveur des Tchèques, à la suite d'une nouvelle séance de tirs au but. À partir de l'été 1996, grâce à l'arrêt Bosman, la plupart des joueurs de l'équipe de France partent jouer à l'étranger où ils acquièrent une stature internationale et une précieuse expérience du haut niveau. Si la série de matchs préparatoires à la Coupe du Monde soulève une certaine inquiétude auprès de plusieurs observateurs, ce qui vaudra notamment au journal L'Équipe les foudres d'Aimé Jacquet a posteriori, les Bleus sont bel et bien présents au rendez-vous. Ils se sortent avec facilité du premier tour. Victoire contre l'Afrique du Sud, 3-0. Sur l'Arabie Saoudite, 4-0. Et le Danemark, 2-1. En huitième de finale, les Bleus, privés de Zidane, suspendus, butent contre le mur défensif du Paraguay et de son excellent gardien de but, José Luis Chilavert. La qualification arrachée 1-0 en prolongation, but à Nord de Laurent Blanc, permet aux Bleus de retrouver l'Italie en quart de finale. Au terme de 120 minutes intenses mais sans but, 0-0, les deux équipes jouent leur qualification au tir au but et la France s'impose 4 tirs au but à 3 à la suite d'un pénalty raté de Luigi Di Baggio. En demi-finale, la France semble proche de tomber après un but encaissé en début de seconde mi-temps face aux surprenants Croates. Mais les deux seuls buts en équipe de France du latéral Lilian Thuram la qualifient de but à 1 pour la première finale de son histoire face au Brésil. Le Brésil, qui impressionne depuis le début de la compétition par la puissance et l'adresse de ses attaquants, mais laisse également entrevoir de grosses carences défensives. Dominateur et réaliste, les Français prennent l'avantage en première période grâce à 2 buts de la tête de Zidane sur corner. Réduit à 10 en seconde période, à la suite de l'expulsion de Desailly, la France subit, mais résiste notamment grâce à Fabien Barthez, auteur de parades décisives, mais finit par inscrire un contre, en troisième but libérateur par Emmanuel Petit dans les derniers instants du match, score final 3-0. Ce but est d'ailleurs le 1000e but de l'histoire de l'équipe de France. Didier Deschamps devient, le 12 juillet 1998, le premier joueur français à soulever la Coupe du Monde. Les Français enchaînent ensuite avec les éliminatoires pour obtenir leur place à l'Euro 2000. La France va confirmer son statut de meilleure équipe du monde à l'occasion de l'Euro 2000. Toujours aussi solide défensivement, elle propose un football plus offensif qu'en 1998 grâce à l'éclosion d'attaquants tels que Thierry Henry,
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.